Alors nous préparons la première communion de Samuel demain. Samuel a 8 ans et on a passé la journée ensemble. Nous sommes descendus dans le précipice. Et il a fait l'expérience spirituelle de la descente vers le bas. Et je l'ai laissé à un moment donné tout seul, au milieu de la brousse, uniquement avec des bruits d'oiseaux, de tous les côtés, qui résonnaient de tous les côtés, de tous les versants des montagnes. Il est resté tout seul pendant une heure. Puis après on a recommencé, on l'a mis dans une grotte. Et après on a recommencé, on était dans un lit d'un torrent. Et après, on a recommencé, on s'est mis au pied d'une grande cascade. Et on a essayé de faire rentrer l'humanité dans les profondeurs de la solitude. Parce que le pape Jean-Paul II disait ceci. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Le pape disait, c'est la solitude qui structure profondément le cœur du Fils de l'homme. C'est la solitude qui structure profondément le cœur humain. Hein? C'est drôlement bien, hein, Samuel? Hein? Alors, une fois qu'on a trouvé cette solitude profonde, on peut découvrir la solitude profonde du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, ce qui fait la caractéristique de Jésus. Du point de vue du cœur, c'est qu'il est seul. C'est ce qui fait d'ailleurs quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le cœur de Jésus, ce qui structure profondément le cœur de Jésus, c'est qu'il est seul. Il est seul à Gethsémani, il est seul à souffrir. Sur la croix, il est seul. Et tous les bruits qu'il entend autour, qui sont des cris, qui sont des vociférations, c'est comme nous qui sommes entourés par le bruit des voitures, des oiseaux. Jésus est seul au milieu de tout ça. Dieu est seul. C'est quand même extraordinaire de comprendre aussi ça, que Dieu est seul. On dit tout le temps dans la Bible, Adonai Echad, Dieu est un. Dieu est un. Et il faut rentrer à l'intérieur de la solitude vivante de Dieu. Vous voyez, regardez quand on dit ça. Suite, c'est exactement comme pour l'Apocalypse, puisque c'est une introduction à l'Apocalypse que je fais. Quand on dit ça, on dit oh là là, Dieu est seul, oh mon Dieu, Jésus est seul. Et un moment de recul, quand tu commences à être tout seul dans une trou, dans une grotte, ça doit être effrayant. Mais pas du tout, c'est pas du tout effrayant. Et la solitude qu'il y a à l'intérieur de Dieu, ça doit être effrayant, mais pas du tout. C'est pas du tout effrayant. Découvrir son cœur, c'est pas effrayant. C'est de ne pas découvrir son cœur qui est effrayant. Du coup, quelqu'un qui n'a pas découvert son cœur, et cette solitude profonde qui habite le cœur de l'homme, cette solitude vivante, il a toujours peur. Et c'est pour ça qu'on lit l'Apocalypse, vous voyez pourquoi? Parce que l'Apocalypse nous fait rentrer dans ce qu'il y a d'unique à l'intérieur de Dieu. Dans ce qu'il y a d'unique à l'intérieur de l'agneau de Dieu. Dans ce qu'il y a d'unique. Il y a quelque chose qui est unique, que lui seul il a. C'est curieux, hein? Regardez par exemple le démon, lui. Il s'est révolté contre Dieu. Et bien du coup, que vous le vouliez ou non, le démon a peur. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont possédés, qui sont entourés des démons, sont toujours terrorisés. Pourquoi? Parce que le démon communique sa terreur. Il terrorise le démon toujours. Alors, qu'est-ce qu'il fait le démon? Ben du coup, il s'agglutine avec les autres. Il s'agglutine, vous voyez, il fait une espèce de... de conglomérat. Un espèce de conglomérat. Et dès que, comme il est précipité sur la terre, ce conglomérat, il va essayer de conglomérer la matière vivante. Et il va créer une cité. Et vous voyez, dans l'Apocalypse, quand vous rentrez dans le chapitre 17, 18 et 19 de l'Apocalypse, il y a cette production de ce conglomérat qui vient de la terreur de Lucifer. Il ne peut plus supporter d'être seul. Il ne peut pas rentrer dans la solitude vivante et accomplie de Dieu. Vous voyez, épanouissant. C'est une solitude sponsale. Vous voyez, quand le pape disait, c'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme, il parlait de solitude sponsale. C'est une solitude vivante. C'est plus on aime et plus on est dans une communion de personnes avec quelqu'un, dans un épanouissement total, plus notre solitude est vivante. Moins on a peur, plus on ouvre tout grand nos portes, plus notre cœur devient un cœur d'accueil. Alors, les chapitres sur lesquels nous sommes en train de... Nous sommes parvenus dans la méditation de l'Apocalypse, sont des chapitres qui concernent précisément cette fameuse cité. Cette fameuse cité qu'on appelle Babylone, et qui est bizarre, cette cité. C'est une cité... Il y a le 666, il y a le 666, il y a les marchands, il y a un conglomérat de trucs, il y a beaucoup, beaucoup de luxe, il y a beaucoup d'admiration, il y a beaucoup de splendeur, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que c'est ce conglomérat est provoqué par la présence de cette panthère à sept têtes, qui est chevauchée par la grande prostituée, qui tient la coupe, couverte d'or, de pierres précieuses et de trésoreries. Et cette coupe est débordante. Et cette cité, elle est liée à cette bête extraordinaire qui terrorise tous ses habitants s'ils veulent sortir de la cité. Donc nous allons lire un petit peu ça. Nous allons lire un petit peu cette suite extraordinaire de la chute de Babylone. Parce que vous voyez, c'est ce qu'on avait lu. On a vu le chapitre 17 et donc... On va le reprendre pour aller jusqu'au chapitre 18 et au chapitre 19. Vous voyez, vous verrez qu'il n'y a pas tellement de commentaires à faire pour la chute de Babylone. Tout va de soi. Il n'y a pas besoin de symboles là. C'est pratiquement pas symbolique. C'est peut-être la seule partie de l'Apocalypse qui n'a pas besoin d'explication. Parce que ce que nous voyons décrit ici au chapitre 17, 18 et 19 de l'Apocalypse, nous le verrons de nos yeux. Vous voyez, si le journaliste est là à la télévision pour commenter, il suffirait qu'il prenne presque le texte de l'Apocalypse ce jour-là. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de commentaires. Ce n'est pas symbolique. Alors c'est quoi cette cité? Vous voyez, dans la tradition chrétienne, il y a la cité céleste, il y a la cité terrestre, et il y a la cité de Babylone. Un tiers, deux tiers. La cité humaine, c'est vrai, elle s'est fondue en deux. Et c'est ça qui va se passer au chapitre 17, 18 et 19 de l'Apocalypse. L'humanité, l'ensemble de l'humanité, en voulant s'unir pour se conglomérer ensemble sans Dieu, va se scinder en deux. Et la Babylone, la cité luciférienne, la congrégation terrorisée, si vous voulez, mais qui du coup joue, jubile, fait des choses splendides, se rassemble, exulte ensemble dans la prostitution, vous voyez, dans l'abomination de la désolation. Alors, à ce moment-là, cette cité-là va être entièrement brûlée. Malheur à cette cité. Il ne faut pas oublier que le chapitre 17 vient tout de suite après les sept coupes. Donc les sept coupes, il y a une chose qui est très facile à comprendre dans les sept coupes de l'Apocalypse, c'est que la coupe parfaite de l'Apocalypse, à un moment donné, elle est donnée dans le contexte de l'Antichrist, 666, vous me suivez, vous vous rappelez de ça. Et à ce moment-là, la paternité de Dieu, parce que la coupe, ça représente la paternité, hein, la paternité de Dieu, première personne de la très sainte Trinité. Jusqu'à maintenant, on a connu le Fils. On a connu le Fils dans Jésus. À travers Jésus, le Fils nous a été donné. Le Verbe. Nous connaissons le Christ. Nous aimons Jésus. Mais le Père est dans le Fils, comme on vient de le lire dans l'évangile de Saint Jean tout à l'heure. Le Père est du dedans de Jésus, dans le Verbe. Ce qui voit le Verbe voit le Père qui est en train de produire. Pourquoi ? Il n'y a aucune différence du point de vue de la solitude vivante de la nature de Dieu entre le Verbe et le Père. Ils sont uniques. Ah, ça, de ce point de vue-là, c'est extraordinaire, vous voyez. Mais néanmoins, vous voyez, à un moment donné, à l'heure de l'Antichrist, 6, à l'heure de l'image de la bête, à l'heure des trois bêtes de l'Apocalypse, à cette heure-là, à l'heure où le ciel se déchire et où le temple va faire entendre une voix tonitruante sortant du trône, à l'heure où le Père va se révéler à travers Saint Joseph ressuscité, la voix de la première personne de la très sainte Trinité va se manifester à travers l'immense ouverture de la résurrection de Jésus, Marie et Joseph. À cette heure-là, la paternité de Dieu va être manifestée de manière extraordinairement sensible en nous. Ça s'appelle les sept coupes. Les sept coupes montrent ça. Montrent comment la manifestation de Dieu le Père à travers la Sainte Famille Glorieuse, à travers la résurrection déchirée de Jésus dans l'agneau, va se manifester à nous de manière spectaculaire. Ça, on l'a vu. On l'a déjà vu ensemble. Eh bien alors, par contrepoids, c'est toujours comme ça, dans l'Apocalypse, par contrepoids, il y a la prostituée qui arrive. La cité de Babylone. La bête de la panthère, cette tête. Et elle tient la coupe. Et dans la coupe, il y a Chikutsim, Meshomem. Ça, c'est frappant, ça. Alors, vous avez compris. Non, vous ne savez pas ce que c'est Chikutsim Meshomem. Chikutsim Meshomem, c'est l'abomination de la désolation. Donc c'est quand l'humanité s'autorise à s'introduire dans le Saint des Saints, dans le corps de l'homme, réservé à Dieu le Père seul. Hein, le clonage. Donc lorsque l'humanité, ce que l'ange Gabriel a expliqué au prophète Daniel, lorsque l'humanité rentrera dans le sanctuaire à l'intérieur du corps humain réservé à la paternité créatrice de Dieu seul, ce sera Chikutsim Meshomem. Le jour où l'humanité décide collectivement de s'autoriser à faire cette intrusion blasphématoire, elle fait quelque chose de plus grave que le péché originel. C'est pour ça que l'Apocalypse va mettre sept grandes description de ce péché terminal, l'abomination de la désolation. Et l'ange Gabriel avait dit au prophète Daniel, le jour où l'humanité se décide à dire cet interdit-là absolu divin est un interdit absolu divin, mais que tous considèrent qu'il soit possible de le faire sans inconvénient, ce jour-là, l'humanité s'autorise à faire intrusion. Cette date, nous la connaissons. C'est le 8 mars 2005. Donc, c'est pas si loin que ça. Alors, c'est pour ça qu'on est en plein dedans. Et comprenez que quand on voit une prostituée qui tient... En fait, la prostituée, ça représente bien sûr l'ensemble du mondialisme tenu par le sang noir de Lucifer, la pieuvre noire. Certains qui disent il y a beaucoup d'inspirés, vous savez, qui font des poèmes, et qui disent oui, la grande prostituée de l'Apocalypse, c'est la franc-maçonnerie ecclésiastique. Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est l'ANCE, c'est la maçonnerie ecclésiastique, c'est évident. Elle en fait partie, en numéro un. Mais c'est pas seulement la maçonnerie ecclésiastique, c'est l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité, celle qui a été choisie par Dieu. C'est dans l'humanité ceux qui ont été choisis par Dieu et qui ont décidé de se nourrir non pas de la miséricorde de Dieu, mais de l'abomination de la désolation. Donc c'est un contexte de mondialisme, c'est un contexte onusien, si vous voulez, c'est un contexte de pieuvre noire, hein, c'est un contexte de conglomération. Ça, vous voyez, c'est tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que l'heure du Père est arrivée. La paternité de Dieu. Il va falloir vivre de la paternité de Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit touche le cœur profond et spirituel. Le Verbe touche. Le Verbe de Dieu, le Christ, il touche, il est la lumière. Il vient nourrir la lumière surnaturelle de notre foi. Il vient nourrir notre intellect agent, qui dépasse notre corps, mais qui, à travers le corps, s'exprime dans la vie contemplative. Le Saint-Esprit, lui, il vient enflammer notre âme. Toute notre affectivité s'enflamme dans le cœur profond par l'Esprit Saint. Et c'est l'âme. Parce que la paternité de Dieu, elle s'exprime dans une liberté incarnée. Quand Dieu nous crée, il crée une liberté paternelle qui est la sienne, de fécondité, dans un corps humain. Le Verbe de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité, vient à l'intérieur de nous pour mettre sa solitude extasiée à l'intérieur de notre intelligence spirituelle, notre vie contemplative, notre esprit humain. Le Saint-Esprit, lui, vient enflammer notre cœur, enflammer notre âme. Hein, l'esprit, l'âme, le corps. Et la paternité de Dieu vient donner ce qu'il y a d'unique dans cette paternité à l'intérieur d'un corps. Il crée un nouvel être humain. Le corps est lié au Père. Notre corps vivant est lié au Père. Le Père, quand il fait que notre corps devient un corps vivant dans la liberté du don, on touche la paternité. Et bien, voyez, quand on lit ces chapitres 17, 18 et 19, entendez bien 19, ce que ça veut dire. Parce que 19, c'est le chiffre de Saint Joseph. C'est trois chapitres qui montrent les sept grandes descriptions du jugement de Babylone la Grande. Eh bien, montrent bien qu'on rentre dans le temps, à l'intérieur du peuple de Dieu, du Père. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut lire. Parce qu'il faut toujours revenir à ce qu'on avait déjà vu. Tout ça, on l'avait déjà vu. Donc, comprenez bien. On est donc bien d'accord. Dès que vous lisez la coupe, dites-vous bien, c'est la paternité de Dieu qui est impliquée. La coupe, c'est réservé au Père. C'est pour ça que c'est à la fin de l'Apocalypse. Hein. Oui, par exemple, dans l'Église catholique, personne ne pouvait toucher à la coupe. Depuis le Concile Vatican II, on a le droit, en certains cas, on peut communier par intinction au corps, au pain consacré et au vin, et à la coupe. Ça ne se faisait pas avant. Là, on se rapproche. La coupe fait partie dans l'Eucharistie de la perfection du signe, l'accomplissement du signe eucharistique. Le signe eucharistique, le pain vivant du ciel, va nous faire entrer dedans l'intérieur de lui-même, dans l'ivresse du Père. C'est une ivresse physique. Alors, on va lire ça. Alors, on avait dit, vous voyez, si vous voulez un petit peu voir un petit peu le jugement de la prostituée, il y a sept parties, hein, dans le jugement de la prostituée, chapitre 17, 18 et 19. Il y a sept parties. D'abord, jugement de la prostituée. Nous l'avions déjà vu. Hein. Survient un des sept anges aux sept coupes. Il me parle et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise au bord des eaux innombrables. Elle est assise, elle se repose au bord de la multitude des peuples. Et des eaux innombrables, c'est-à-dire du monde psychologique. Avec elle, ils ont putassé les rois de la terre. Ils se sont saoulés, les habitants de la terre, au vin de sa prostitution. Ils me transportent en désert, en esprit. Je vois une femme assise sur une bête rouge, pleine de noms des noms de blasphème, avec des têtes, 7 têtes, et des cornes, 10 cornes. La femme est habillée de pourpre, d'écarlate, dorée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle a dans sa main une coupe d'or pleine de chicoutim. Pleine des chicoutim, pleine des abominations de la désolation. Et des souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom écrit, c'est un mystère, Babylone la Grande, etc. Donc nous l'avions déjà lu. Alors, après, il y a deuxième partie, explication du mystère de la prostituée, de la grande prostituée. Bizarre cette histoire prostituée. Hein. L'humanité, si elle s'est séparée de Dieu et qu'elle veut prendre la place de Dieu, c'est la prostituée par excellence. Elle s'est prostituée. Ça veut dire qu'elle a été l'épouse de Dieu et puis elle s'est prostituée. Elle a préféré chevaucher cette bête, cette panthère, à 7 têtes et à 10 cornes. C'est effrayant. Voici l'intelligence de celui qui a l'esprit de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Et ce sont 7 royautés, 7 rois. 5 sont tombés. Cette prostituée montre bien que c'est une royauté, donc un accomplissement, une plénitude. 5 sont tombés. La plénitude de la grâce a été rejetée. 5, c'est la grâce. Hein. Donc la plénitude de sainteté de la grâce, cette prostituée l'a eue, mais l'a rejetée. Un des rois règne toujours. L'autre n'est pas encore venu. On est vraiment dans un moment. On est à 6e trompette, 6e saut, 6e église, 6e coupe, 6e jour de la fin. 6e jour, le moment où l'humanité doit être démasquée, ou du moins, pas démasquée, illuminée, dévoilée. L'homme, la femme vont être dévoilés. Le Christ va dévoiler la paternité du Père. La femme, l'Immaculée, la Jérusalem céleste, va dévoiler la sponsalité incréée de Dieu. C'est dans ça le grand 6e jour de la fin des temps. Et vous voyez, le règne du Christ est toujours là, mais le règne de l'Antéchrist n'est pas complètement accompli. Donc vous voyez bien, la grande prostituée, c'est avant, et c'est ce qui déclenche, si je puis dire, c'est ce qui déclenche le règne de l'Antéchrist de 300 et demi. Pas tout à fait encore venu. C'est les 10 rois, ils règnent, mais leur règne n'est pas venu. Mais il y a déjà eu le rejet de la grâce. 5 règnes sont tombés. Quand il viendra, il lui fera demeurer peu de temps. Quand l'Antéchrist viendra, de toute façon, son règne sera très très court. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e. Elle fait partie des 7 et elle va à sa ruine. Ça veut dire, 8, ça représente le Christ. 8, c'est le chiffre du Christ. Donc ça veut dire que la plénitude, la perfection du Christ, elle tâchera de l'imiter. Elle essaiera d'avoir cette plénitude du Christ, cette plénitude du Christ cosmique, vous comprenez, mais en fait cette plénitude du Christ cosmique ne sera pas autre chose que la déchéance de la grâce et que la manifestation du Christ, pseudo-Christ ou anti-Christ. Donc c'est pour ça que c'est dit comme ça, de cette manière là il y aura un 8e roi, mais ce 8e roi ne sera rien d'autre que les 7 autres. Ils ne seront pas 8, ils seront 7. C'est une manière très spéciale de parler, Apocalypse, hein, vous savez, hein, c'est très particulier. Hein. Alors, mais les 10 cornes que tu as vues, ce sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Les 10 rois. Là, en ce moment, on va voter, je crois, en mai, c'est ça, pour le 1 des 10 rois, 1 des 10 royaumes. on est quand même à l'époque hein, des sept coupes. Hein. Alors les dix royaumes, on sait où ils sont. Si vous voulez, un jour, on pourra faire une map monde et je vous ferai la frontière du dix royaume. Pour l'Europe, c'est pas compliqué. Hein. Pour l'Afrique, c'est pas compliqué. Pour les pays, pour le grand Moyen-Orient, c'est pas compliqué. Pour l'Asie, si. Ben, maintenant, l'Amérique du Sud, c'est voilà. Enfin, vous arrivez à 10. C'est 10, hein, il y en a 10 zones, de toute façon. Hein, c'est depuis les années 70 hein, qu'on a essayé de mettre en place les 10 zones. Ils ont tous leurs accords, leurs frontières, enfin, leur cohérence et tout. Et la grande prostituée leur a donné un mot d'ordre à chacun. Chacun doit avoir une structure, chacun doit avoir une mission, chacun doit avoir une note, chacun doit avoir un accomplissement. Dans le Grand Moyen-Orient, il ne doit pas y avoir un seul chrétien. Par exemple, il faut absolument qu'il y ait une des 10 royaumes qui soit le lieu de la préservation intégrale du texte Antichrist qui a été écrit en l'an 666 après Jésus-Christ. Il faut qu'il soit absolument préservé dans un royaume. Et chacun de ces royaumes va avoir une mission. Les 10 rois. Donc en principe, on va voter le nom grâce à Dieu. Alors, ceux-là ont un même dessein, leur force, leur puissance. Eh bien, il les donne à la bête. C'est la bête qui compte pour eux. La bête, elle fait en sorte que on ne puisse plus comprendre, c'est cette tête, hein, on ne puisse plus comprendre la voix. La bête, elle a sept têtes, c'est-à-dire que, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Verbe de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité, illumine notre intelligence, notre intellect agent, pour qu'on puisse contempler de l'intérieur l'intimité vivante de Dieu. C'est ça la solitude vivante de Jésus sur la croix, de Jésus ressuscité, de Jésus agneau de Dieu, de Jésus assis à la droite du Père, de Jésus dans notre cœur, une solitude vivante, une solitude unique. Eh bien, la bête a sept têtes, elle a pour, c'est la tête, vous voyez, c'est l'intelligence. Elle a pour but d'empêcher qu'on puisse respirer dans la lumière surnaturelle de la vie contemplative. Et les 10 royaumes n'ont qu'une seule force, un seul but, tous. Ils les donnent à la bête. C'est pour qu'il n'y ait pas de vie contemplative surnaturelle, la lumière surnaturelle de la foi. Il faut arracher les racines dans tous les royaumes, même dans les lieux où le christianisme est la racine même de ce royaume. Et dans la Constitution, il faut arracher les racines. C'est normal. Mais pareil. Alors on continue. Ça, nous l'avions déjà lu. C'est pour ça que je fais un parcours rapide. Les 10 cornes que tu as vues et la bête finiront par haïr la prostituée, ils la rendront déserte et nue, ils mangeront ses chairs, ils la brûleront au feu. Ça, c'est important, vous voyez. Celui qui a apostasié, c'est comme un chien qui retourne à son vomissement. Le peuple d'Israël, quelque part, pour certains d'entre eux, ont apostasié dans la synagogue de Satan, dans les Illuminati. Les chrétiens ont apostasié dans la maçonnerie ecclésiastique. Eh bien, il est bien évident qu'une fois que les 10 royaumes seront installés, ces gens-là, la bête et la grande cité, n'auront aucune pitié pour eux. Ils seront déchiquetés. Déchiquetés. Vous avez remarqué dans leur protocole, hein, une fois qu'on aura fini de servir d'eux, de ces traîtres, ces apostats, ces immondes, nous les déchirerons. C'est marqué dans le protocole. Donc ne rentrez pas dans les ateliers, hein. Ça ne sert à rien. Vous êtes promis à une destinée terrible, sans compter bien sûr celle qu'il y a après. Mais voyez, les 10 cornes que tu as vues, la bête haïront. Vous voyez ce projet extraordinaire de la bête, de la pieuvre noire, de la cité luciférienne, de cette conglomération mondialiste. Un de leurs buts, un de leurs aboutissements, ce sera la destruction d'Israël. L'holocauste des Juifs. Parce qu'ils seront servis de leur apostasie quelque part, ils seront nourris de leur apostasie. Et pareil, l'holocauste de ce qui reste, j'allais dire, de ce côté un petit peu, de ce côté un petit peu odieux, il faut bien le dire, du ministère de Judas dans l'Église apostolique catholique. C'est pour ça, c'est à cause de ça, vous voyez, qu'il y a certains qui assimilent la prostituée à l'ensemble de ceux qui ont apostasié et qui sont rentrés activement au service de la bête, dans le corps mystique de la bête. Ils ont chevauché le corps mystique de la bête, la panthère, à cette tête. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste. Bon, bien sûr que ça, c'est une interprétation, j'allais dire, un petit peu basse, on est d'accord, qu'il y a une interprétation spirituelle derrière. C'est que nous avons reçu la grâce. Et il ne faut pas, tout ce qui est en nous fait qu'on s'appuie non pas sur la grâce, mais sur nous. Tandis que nous restons croyants, un royaume reste encore. Et tandis que l'Antichrist ne nous a pas encore envahis, ne nous a pas encore marqués. Voyez, alors là, si vous êtes comme ça, attention, les tièdes. Si votre centre de gravité, ce n'est pas la grâce, les cinq royaumes sont tombés. Le Christ règne encore, j'ai encore la foi. Son royaume n'est toujours pas là. L'Antichrist ne m'a toujours pas happé. Attention, c'est que tu es dans le cœur de la grande prostituée de l'Apocalypse. Celui qui est tiède n'est pas du tout choqué du clonage, par exemple. Ça ne choque pas du tout, ça c'est normal. Ton centre de gravité, c'est les huit royaumes. C'est 888. La plénitude du Christ dans ta foi, la plénitude du Christ dans ton âme glorifiée dans l'Esprit Saint, la plénitude du Père dans la liberté du don de ton corps originel pour la mise en place du corps spirituel. Si c'est ça, alors à ce moment-là, tu n'es pas dans le cœur de la prostituée. C'est ça l'interprétation réelle. Et tout ce qui en nous appartiendra à la prostituée, vous voyez, tout ça sera déchiré. Heureusement. C'est pour ça que moi j'embrasse les pieds des persécuteurs. Parce qu'ils ne déchireront que ce qui nous appartient en nous à la prostituée. C'est ça évidemment l'interprétation principale. C'est qu'il y aura une purification et le bon Dieu va se servir un petit peu comme il s'est servi d'Attila, vous voyez, à un moment donné. Attila, comme si Attila, il a fait du ménage. Il a fait du ménage. Il y avait un athéisme, une corruption terrible. Alors Attila, il a fait le ménage. Vengeur de Dieu, on l'a bien dit, un châtiment de Dieu, Attila. C'est un peu ça. Troisième partie, il y a sept parties pour la chute de Babylone. Troisième partie, chapitre 18, verset 1. Après cela, je vois un autre ange descend du ciel. Il a une grande puissance. La terre est illuminée par sa gloire. Il crie d'une voix forte et il dit, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue un repaire de démons. Une prison pour tout esprit immonde. Une prison pour tout oiseau immonde, pour toute bête immonde et honnie. Et alors, ouais, ça, la troisième partie, c'est l'annonce de la chute de Babylone. La Babylone va être... Elle est tombée. Dès que vous verrez les dix royaumes, dès que vous verrez l'abomination de la désolation, dès que vous verrez tout ça, sachez bien que sous vos yeux, vous le verrez, vous voyez, c'est pas au futur, c'est elle est tombée. Quand vous verrez tout ça, c'est que vos yeux verront aussi la chute de Babylone. Babylone. Ah, Toutes les nations ont bu le vin de l'écume de sa prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Rendez-lui ce qu'elle a rendu. Doublez le double de ses œuvres dans la coupe où elle a tout mêlé. Mêlez pour elle le double. Autant se glorifiait-elle dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de larmes, parce que dans son cœur elle dit « Je trône en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai jamais le deuil. » Alors en un seul jour arriveront ces plaies. Mort, deuil, famine, elle sera brûlée par le feu. Parce qu'il est fort, Yahweh Elohim qui la juge. La première fois qu'il y a un jugement, c'est sur Babylone la Grande. Vous savez peut-être pas, hein, mais moi j'étais surpris l'autre jour parce que je me disais, tiens, j'ai lu Saint Césaire d'Arles, c'est il y a 1500 ans. Hein, Saint Césaire d'Arles disait que Babylone. Il disait que Babylone sera brûlée entièrement, comme l'explique l'Apocalypse, et il s'agit de la Babylone des Gaules. Ouais, c'est un des apôtres de la Gaule, hein, Saint Césaire d'Arles. Et à partir de Saint Césaire d'Arles, il y a toute une litanie de saints canonisés. Dans chez nous, les plus récents, c'est Saint Benoît Joseph Labre, le Saint Curé d'Ars, Notre-Dame de la Salette, qui dit, ou plein d'autres saints. Qui disent que Babylone la Grande, celle qui sera de manière spectaculaire livrée à la destruction totale, en une heure, c'est Paris. Il y a peu de personnes qui savent ça, vous savez. Très peu qui savent que c'est une multitude de saints qui ont dit carrément que là où on verra visiblement ce qui est révélé invisiblement dans la chute de Babylone, parce qu'en fait la chute de Babylone c'est beaucoup plus profond, hein, voyez, il y aura une icône, ce sera la destruction totale de Paris. Pourquoi? Parce que c'est Paris qui a décidé en premier, le sachant, qu'on pouvait réaliser l'intrusion de l'abomination de la désolation dans le clonage de l'homme. Le premier. Et du coup, c'est Paris qui s'est battu comme un lion et comme un agneau avec deux cornes pour aller là-bas, sur la tête de la panthère, à cette tête, il y a 10 cornes, pour empêcher que cette bête ne l'interdise. C'est à cause de Paris que du coup, le 8 mars 2005, l'abomination de la désolation est décrétée sur toute la terre. Et la source, c'est Paris. Mais ça, c'est une petite nota bene, c'est pas marqué dans l'Apocalypse. Ce qui est marqué dans l'Apocalypse, c'est que Babylone, celle qui doit être entièrement détruite sous les yeux de tous, est liée au Shekutsim Shamem. C'est lié à ce fait que je refuse de retrouver dans mon corps originel le premier instant de ma première cellule, dans le premier génome, où Dieu me crée dans ma liberté d'origine. Je refuse de me retrouver dans les mains de Dieu le Père, qui dans mon corps originel me rétablit, me fait respirer dans l'unique intériorité solitaire de Dieu. Je refuse de trouver une solitude profonde. C'est pour ça qu'avec Samuel, on y est allé cet après-midi. On y est allé ce matin. On est allé s'enfoncer en faisant 5 grands exercices pour faire surgir la joie, l'ampleur, la liberté d'une solitude profonde et habitée. C'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme. C'est pas un ermite qui le dit, vous voyez, c'est un pape. Un pape qui est toujours entouré de millions de gens. C'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme. Alors, c'est la quatrième partie, voyez, il pleure. Alors en un seul jour arriveront ses plaies, mort, deuil, famine, elle sera brûlée au feu parce qu'il est fort, Yahweh Elohim qui la juge. Comment se produira, voyez, cet embrasement, cette destruction, cette mort de ce qui en nous est tiède. Puisque la véritable interprétation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est notre tiédeur. On ne met pas notre centre de gravité dans les cinq royaumes, c'est-à-dire dans la grâce, l'accomplissement de la grâce, dans la plénitude de Marie, dans l'Immaculée Conception. Non, non, non. On le met, on reste croyant. On n'est pas encore absorbé par l'Antichrist, pas encore séduit, complètement. Vous voyez, pas encore. Pas encore. On est au bord. Est-ce qu'on va le prendre, c'est un plan ou pas? Sinon, on ne pourra plus acheter ni vendre. Hein? Pas encore, vous voyez, pas encore. La tiédeur, vous voyez, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui va faire? Cette tiédeur va être ombre, disparue. Elle va mourir. Il n'y aura plus de ferveur. C'est ce qui était indiqué dans la sixième coupe, c'est tout. C'est un essai de tonnerre, ce qu'on avait vu avant. C'est la révélation de la paternité de Dieu dans notre corps humain pour réveiller et la lumière de notre intelligence qui avait été obscurcie et les embrasements de notre âme et de notre cœur qui ont été éteints et attiédis. La paternité de Dieu va se manifester d'un seul coup pour nous donner une ferveur qui a la même force que celle par laquelle le Père engendre un Verbe embrassé d'Esprit Saint. Et à un moment donné, vous voyez, c'est ça qui est marqué dans l'Apocalypse, à un moment donné, ça se passera. C'est pas le jugement dernier. Vous voyez, c'est le jugement de Babylone la Grande. C'est le jugement de la tiédeur. On verra notre tiédeur. Ouais, on appelle ça quelquefois l'avertissement. Mais tout le monde en même temps, hein, à la même seconde, à la même minute, ça durera, dit-on, 5 à 7 minutes. Bon, puisque c'est marqué une heure, une heure. Oui. Il pleure et se lamente sur elle, les rois de la terre qui avaient pu tasser avec elle et partager son luxe quand il voit la fumée de son incendie. Debout, au loin, en frémissant de son tourment, ils disent « Malheur, malheur, oi, oi » en grec, « oi, oi » en hébreu aussi, « oi, oi, oi » en hébreu, c'est « malheur ». Mais ça se prononce « ai ». Quand il dit « ai », ça veut dire « malheur ». C'est ce qu'on dit pour apprendre aux enfants à dire « je » en anglais, n'est-ce pas? I am a son of God. I am a son of God. I. Si les Anglais savaient qu'à chaque fois qu'ils disaient je, c'est un grand malheur. Effectivement, dès que tu dis I, tu dis je, c'est un grand malheur. Faut pas dire je. C'est ce qu'on fait quand on prépare les enfants à la première communion. Je ne dois pas exister. Dans ta bouche, jamais je. Si tu dis une seule fois je, tu feras ta première communion l'année prochaine. Jamais dire je. Moi, je. Ça va pas, non? Moi, je. Malheur, malheur. Aïe, aïe. Jamais dire je. Dire, mon père a dit que... Ah, très bien. La volonté de Dieu demande qu'on fasse la vaisselle. Je... Non ! Malheur, malheur, malheur à l'ego, au jeu, vous voyez, malheur, malheur, la cité, la grande, Babel... C'est des solitudes, vous voyez, les jeux qui s'agglutinent les uns aux autres, les aïe aïe qui s'agglutinent les uns aux autres, ça fait du sable. Ça fait la grande cité. Parce que quand tu trouves là, quand tu trouves la profondeur de ton cœur, tu trouves ce qui est unique en Dieu. Dieu est seul. Adonai Echad. Et donc tu l'adores. Donc je n'existe jamais. C'est la solitude qui fait comprendre que je est une aberration. C'est ce qu'a dit Jésus tout à l'heure dans l'évangile. Mais le Fils, le Père est dans le Fils et du dedans du Fils. Le Fils n'est pas je suis le Fils, c'est le Père. Je n'existe pas, t'aberrant. En une heure, ton jugement est venu. Les marchands de la terre pleurent. Alors là, cette fois-ci, on est obligé de lire en entier. Vous verrez qu'il n'y a strictement aucune interprétation à faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nul n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or. Plus personne n'achète les cargaisons. Les trésors d'amour que propose la sincérité, le romantisme, la sentimentalité. L'or, c'est l'amour. Les cargaisons, on te propose de l'amour tant que tu veux. L'amour frelaté. Plus personne ne veut acheter ça. C'est extraordinaire ce qui va se passer après. Après la révélation de la paternité du Seigneur, après l'avertissement. Plus personne ne veut acheter l'argent, leur espoir humain et terrestre. Plus personne ne veut acheter les pierres précieuses. Ah, les qualités, les valeurs de la prostituée et de la cité terrestre. Plus personne ne voudra acheter des perles. Ah, c'est les secrets intérieurs de la gnose. Plus personne ne voudra acheter le lin fin, les fausses, voyez, les fausses sacerdoces, les fausses médiations, les fausses ambassades. Plus, etc., etc. Hein, de pourpre, de soie. Alors il y en a 30. Normal, c'est ce qui a remplacé la Sainte Famille. Alors voyez, je vais vous citer les 30. Plus personne n'achète leur cargaison, leur or, leur argent, leur cargaison de pierres précieuses, de perles, de lin fin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois odorant, de tout objet d'ivoire, de tout objet de bois précieux, de bronze, de fer, de marbre, de cinnamome, d'amome, d'encens, de myrrhe, d'oliban, de vin, d'huile, de fleurs de farine, de blé, de bovins, ovins, chevaux, chats, corps et êtres humains. 30. C'est pas beau ça? Ils ont refusé la Sainte Famille et ils proposent tout ça. Ils refusent. Oui, et dans la Sainte Famille, on trouve la paternité de Joseph, on trouve la paternité de Dieu le Père vis-à-vis du Verbe. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein, cette manière symbolique de s'exprimer. Alors évidemment, il faudrait reprendre les 30 en disant à quoi ça correspond chacun. Mais vous le ferez vous-même, c'est facile. Hein. Eh oui. Non, mais c'est facile. Hein, c'est tout ce qui remplace ce qu'il y a de précieux dans la Sainte Famille. Il faudrait faire une théologie de la Sainte Famille, voyez, avec ça. La Sainte Famille glorieuse. Jésus, Marie, Joseph, ressuscité, glorifié. Qui s'échange des cargaisons d'or, d'argent, etc. Et puis, pour la grimace de la cité. C'est extraordinaire, ça, hein, comme manière de s'exprimer, je trouve. Alors, je continue. Le fruit de la convoitise de ton être s'en est allé loin de toi. Toute somptuosité et splendeur ont été détruites loin de toi. Jamais plus ils ne les retrouveront. Plus jamais tu pourras te permettre de te gargariser de faux amours, de fausses espérances, de fausses religions, de fausses spiritualités, de fausses gnoses, de fausses hérésies. Etc. D'hypocrisie, vous voyez, le lin. C'est un faux sacerdoce. Tu ne pourras plus te permettre d'être hypocrite. Et de te voiler en disant non, c'est pas mal, moi ce que je fais c'est très bien. Si tout le monde faisait comme moi, le monde irait beaucoup mieux. Je connais des gens qui m'ont dit ça. Hein. Ah, je connais des gens qui m'ont dit ça. Si tout le monde était comme nous, le monde marcherait mieux. Il y en a qui me l'ont dit. Hein. Moi, je dis toujours, si tous les prêtres étaient comme moi, ce serait une catastrophe. Et je ne suis pas le seul à en être convaincu. Bon, alors, voyez. Bon, alors, on continue. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune illusion. On ne peut plus se faire illusion. On est obligé de choisir. On peut se faire illusion. Jusqu'à l'heure de l'antéchrist démasqué, on peut se faire illusion. En disant, après tout, je fais ce que je peux. ce qu'on dit quand on bénit la table quelquefois, Seigneur, j'apporte mes pains et mes poissons, j'espère que tu vas les multiplier. Hein? Hein? Je fais ce que je peux. Alors, ils disent, les marchands de cela, ceux qui s'étaient enrichis d'elle, debout au loin, en frémissant de son tourment, pleurent et s'enteuillent. Ils disent, oi, oi, ou se préfèrent, aïe, aïe, ou malheur, malheur. La cité, la grande cité vêtue de lin, voyez l'hypocrisie par excellence, le sacrement d'hypocrisie, de pourpre, voyez, les cardinaux, les princes, c'est les princes de ce monde, sont revêtus de princes de ce monde, d'écarlate, sainte d'or, de pierres précieuses et de perles, parce qu'en une heure est devenue déserte tant de richesses. Tout capitaine, tout navigateur du lieu, les marins et ceux qui œuvrent en mer se tiennent au loin. Voyez, l'Église, elle, se maintient au loin. Le capitaine, c'est le navire, le bateau, c'est la barque, elle est sur les eaux. Elle n'est pas dedans. C'est pas un sous-marin, l'Église. C'est l'arche de Noé, voyez. Donc les capitaines se tiennent loin de tout ça. L'Église se tient loin. Elle est loin de la tiédeur. L'Église, de ce moment-là, de cette époque-là, ne peut pas être tiède. Si elle reste l'Église, elle ne peut pas être tiède. Ceux qui sont tièdes sont dans la bête. Irrécusablement, irrémédiablement. Ils crient en regardant la fumée de son incendie. Ils disent, qui était semblable à la grande cité? Ils jettent de la poussière sur leur tête. Ils crient, ils pleurent, ils s'endeuillent et disent, malheur, malheur, cité la grande. Voyez. D'abord, c'est le ciel qui a dit malheur, malheur, et l'Église qui fait écho, mais cette fois-ci avec la contrition pour demander pardon. Par qui se sont enrichis tous ceux qui avaient des navires en mer, par son opulence, parce qu'elle, en une heure, elle est devenue déserte. Jubilée à cause d'elle, ciel consacré, saint, envoyé, inspiré par ce qu'Elohim a jugé votre jugement en elle. Vous voyez, c'est bien ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Le jugement de Babylone, c'est notre jugement. Mais c'est un jugement, c'est le jugement de la tiédeur, c'est le jugement de l'hypocrisie, c'est le jugement de la liberté. On va voir dans la lumière de Dieu le Père, dans la première lumière qu'on a eue 9 mois avant la naissance, dans notre corps originel, c'est cette lumière qui va se manifester à nos yeux, à notre âme, à notre chair, à notre sang, à notre liberté, à notre évidence. D'un seul coup, en quelques minutes. Et l'effet se prolongera pendant une heure. Voilà, vous voyez, on commence à améliorer l'interprétation. Parce qu'Elohim a jugé votre jugement au-dedans d'elle. Un seul ange, fort, soulève alors une pierre grande comme une meule. Il la jette à la mer et il dit ainsi, d'un seul coup, elle sera jetée, Babylone la grande. Non. On ne la reverra plus jamais. C'est avec la meule qu'on moule le grain pour faire l'Eucharistie. Et la meule, c'est quoi cette meule? Vous voyez, cette meule, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui moule de manière à ce que le corps mystique de Jésus fasse un seul hostie eucharistique. On passe de Jésus seul à l'unique plénitude de Jésus entier. Grâce à la meule. Entre temps, il y a la meule. La meule, c'est la résurrection. C'est quelque chose de solide, une meule, hein, sinon tu n'écrases rien du tout. Et la meule, c'est cette unité profonde de la résurrection de Jésus, de Marie et Joseph. D'un seul coup, dans la mer, dans le monde psychologique, de notre âme, qui se fait encore illusion sur sa ferveur en disant, moi, je connais Dieu. Moi, je suis un catho hyper branché. Là, vous voyez, d'un seul coup, terminé. On va voir tout ça, on va voir à quel point cette lumière de l'Eucharistie va s'associer à la lumière de notre corps originel dans la paternité de Dieu pour la vision et la mise en place de notre corps de résurrection. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Hein, c'est une manière de parler que je trouve fantastique. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? C'est quand même pas mal. Hein. Tu es larqué peut-être. Non, ça va. Tu suis. Non, tu suis très bien. Bon, très bien. J'étais sûr que tu suivais. Oui, la lumière de la lampe, non, elle ne brillera chez toi plus jamais. La voix de l'époux et de l'épousée, elle ne s'entendra chez toi plus jamais. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que en tes sorcelleries, ils ont été garés, les païens, les goïmes. Et là se trouve le sang des inspirés et des consacrés, de tous les égorgés de la terre. La voix des joueurs. Donc d'un seul élan, excusez-moi, j'avais sauté des versets. D'un seul élan, elle sera jetée, Babylone, la grande cité. Non, elle ne se trouvera plus jamais. La voix, et on reprend, voyez, la voix des joueurs de sitar, des musiciens, des flûtistes, des joueurs de chauffard. Non, elle ne s'entendra chez toi plus jamais. On va le voir pourquoi. Hein? La prière. Il va y avoir une séparation, voyez, qui va se faire. Une très grande séparation. Dans la cité terrestre, ce sera la cité terrestre, comme dit saint Augustin, ou la cité céleste. Alors, la voix du chauffard, vous voyez, la voix de l'inspiré, la voix de la grâce ne se fera plus entendre dans la cité purement terrestre. Il n'y a plus d'hypocrisie possible, vous voyez. La voix de l'époux et de l'épouse, la sponsalité ne s'entendra plus, vous voyez. Il n'y aura pas de communion de personne entre un homme et une femme dans la cité terrestre. Ce sera fini. Ouais, tu peux recouler en disant, nous on vit en concubinage, on vit quelque chose de très très fort, on vit en concubinage, on vit, je crois, ou même on vit marié, on vit quelque chose de très très fort, puis en fait c'est pervers. D'accord? Mais ils peuvent se donner l'illusion de cette mensalité. L'unité sponsale, c'est quelque chose de très fort, l'unité sponsale. Puisque c'est quelque chose qui prend de l'intérieur la solitude vivante et habitée du corps, qui surgit illuminée dans la solitude vivante du corps de l'autre. Hein? C'est bien ça. C'est toi qui me l'as expliqué. C'est la solitude vivante et extasiée de mon corps, de ma chair profonde qui vient s'illuminer et se déployer dans la solitude vivante et habiter du corps de l'autre. C'est ce que disait le pape, voyez. C'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme. La première dimension sponsor du corps de l'homme qui ouvre l'éthos de l'anthropologie de l'homme et de la femme. Vous avez tous lu l'enseignement du Saint-Père sur la première dimension de la solitude sponsale de l'homme et de la femme, n'est-ce pas? Eh bien, voyez, plus de sponsalité. La lumière sera tellement forte, vous voyez, ça, c'est extraordinaire, la lumière de l'avertissement, la lumière du jugement, de la tiédeur, de la révélation de la paternité de Dieu dans nous, sera tellement forte que si tu vis sans la grâce, si tu es dans la cité terrestre, tu n'auras plus accès à la sponsalité. Tu pourras gambader, te prostituer, faire tout ce que tu veux, mais tu pourras être pédé, tu pourras tout ce que tu veux, mais tu pourras pas, tu n'auras aucune dans la cité terrestre. Tu ne pourras avoir aucune expérience de la communion profonde des personnes dans la complémentarité sponsale. Vous voyez, c'est marqué en toutes lettres. Hein. La voix de l'époux et de l'épouse ne s'entendra plus chez toi jamais. C'est pas extraordinaire, ça? Alors nous, on va rentrer où? Comment est-ce qu'on va faire? La cité terrestre, on en fait partie. On fait partie de la cité terrestre, on fait partie de l'humanité quand même. Alors très bien, continuons vite. Chapitre 19, verset 1. Après cela, j'entends comme la voix forte une foule innombrable au ciel, et elle dit Alléluia. Vous voyez la différence entre Aïe, Aïe et Ya. Alléluia. Ya, Aïe. C'est l'inverse. Alléluia. Gloire, puissance à notre Elohim, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la putain, la prostituée, la grande prostituée qui avait défloré la terre par ses prostitutions et vengé le sang de ses serviteurs jaillis de sa main. Une deuxième fois, ils disent Alléluia. Alléluia, une voix. Sa fumée s'élève pour les éternités d'éternité. Les 24 anciens mystères, voyez, 24 anciens, rappelez-vous, hein. Les 24 anciens mystères de l'incarnation, les 4 vivants mystères de la résurrection, tombent. Le mystère de l'incarnation de Jésus, tout ce pourquoi il s'est incarné, tout ce pourquoi il est ressuscité, tombe et se prosterne devant Dieu, assis sur le trône. Tout le mystère de l'incarnation et tout le mystère de la résurrection adore, c'est-à-dire tout le mystère de l'incarnation en Jésus, tout le mystère de la résurrection en Jésus s'écrase, se prosterne et reconnaît que tout est en fonction de la révélation de la paternité de Dieu. C'est tout pour ce qui compte, c'est la paternité. Il se prosterne. Jésus, le Verbe incarné, l'incarnation, la résurrection ne sont rien à côté de la manifestation glorieuse de la paternité de Dieu. C'est marqué là, vous voyez. Ils disent Amen, Alléluia. Quand le mystique vivant entier de Jésus entier commence à s'exprimer devant la paternité de Dieu et du dedans d'elle, une voix sort du trône et dit, ça c'est Saint Joseph, vous vous rappelez que le trône, hein, ça désigne quelque part la présence physique et glorieuse de laquelle se sert le Père, première personne de la très sainte Trinité. C'est son trône, c'est son instrument glorieux. Et nous, nous l'appelons Joseph glorieux. J'entends donc une voix qui sort du trône qui dit « Louez notre Elohim, tous ses serviteurs, ses frémissants, les petits comme les grands. » On va rentrer dans une admiration et une louange. J'entends comme une voix d'une foule nombreuse, comme la voix des eaux innombrables, comme la voix forte des tonnerres, et elle dit Alléluia. Yahweh, Yahweh, Elohim, Sabaoth. Jubilons, exultons, rendons-lui gloire. Elle est venue, elle est arrivée, elles sont là. La voici, les noces, voyez, de l'agneau. C'est ce qu'on dit à chaque fois, ça. Bienheureux les invités. La voici. Les voici les noces de l'agneau. Les voici les noces de l'agneau. C'est ici cette phrase, oui. Quand il y a la messe, oui. Bienheureux les invités aux noces de l'agneau. Les voici les noces de l'agneau. Hein? Son épouse est prête. Son épouse est prête. Il lui a été donné de s'habiller de lin fin, resplendissant. Immaculé. Oui, le lin fin, c'est les œuvres de justice des saints. Allez, on va être revêtu de la sainteté substantielle de Joseph, telle qu'elle a été révélée dans le 19e verset de l'évangile de saint Matthieu. Et donc c'est pur. Il y a une sponsalité avec ce qui est pur et immaculé. Et du coup, l'épousé est prête. Le Verbe de Dieu peut faire subsister en lui tous les membres vivants de son corps mystique vivant. L'épouser, c'est le Verbe. Le Verbe de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité, n'est pas prêt vis-à-vis du Père tant qu'il n'y a pas la subsistance dans le Verbe. Vous voyez, c'est pour ça qu'on voit les 24 vieillards se prosterner et les 4 vivants. Parce que l'incarnation et la résurrection de tous les élus ne sont rien s'il n'y a pas la transverbération. La subsistance dans le Verbe. Vous voyez, jusque dans le corps, le chair et le sang du corps spirituel de tous les chrétiens. À ce moment-là, l'époux et l'épousée, le père et le fils sont prêts. Jubilons, exultons, rendons lui gloire, car elles sont venues, les noces de l'agneau. Son épouse est prête. Il lui a été donné de s'habiller de lin fin, resplendissant, pur. C'est très beau tout ça, oui. Le lin fin, c'est les œuvres de justice des saints. Il me dit, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. En marche, en hébreu, on dit heureux, je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, quand vous dites heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui écoutent les paroles de ce livre, heureux les invités aux noces de l'agneau. En fait, en hébreu, ça se dit debout, marchons. Vous ne saviez pas ça, hein, quand vous dites heureux. Ah, tu es pauvre, écrasé. Tu es pauvre, écrasé par la maladie, persécuté, tu vois. Tu es inconsolable. Alors, debout, il marche. c'est ça que ça veut dire, heureux. Heureux, en marche. Ah, tu as mal, tu as un sacrifice. Tu as mal aux pieds, tu as trop froid aux pieds. Les épines t'écorchent la jambe. Heureux es-tu. Ça veut dire, debout, marche, va plus vite. Enfin un sacrifice. Enfin un sacrifice. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui font leur première communion. Debout, en marche. Tu vois, c'est ça. C'est quand même incroyable comme c'est beau. Il me dit, ces paroles d'Élohim sont véridiques. Je tombais à ses pieds pour me prosterner devant lui. Il me dit, vois, non, je suis un compagnon de service comme toi et tes frères, possédant en moi le témoignage de Yeshua, de Jésus. Prosterne-toi et adore Elohim, la très sainte Trinité. Oui, le témoignage de Jésus est le souffle de l'inspiration. Oh, ça, c'est une traduction de là-bas, il y a un petit livre, là, blanc. Vous allez me le passer. Oui, oui, parce que j'aime pas trop ici cette dernière traduction. Et on termine d'ailleurs par là, chapitre 19, verset 10. Et il me dit, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il tombe à ses pieds, c'est pour adorer une créature. Non, tu n'adoreras pas, hein, Joseph, hein. Il me dit, garde-toi de le faire, je suis serviteur avec toi et avec ceux qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ah, je préfère. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Si tu veux être martyr, si tu veux témoigner, alors tu témoignes de la fin. Tu témoignes des noces de l'agneau. Vous voyez bien que le jugement de la prostituée, et j'en ai fini, vous voyez, on a eu les sept parties du jugement de la grande prostituée et de la cité de Babylone la Grande. Ça s'est produit en sept parties. C'est pour montrer à quel point c'est important l'équivalent du péché originel à la fin. L'abomination de la désolation. Chikutsi, monsieur, puisque ça prend sept parties dans l'Apocalypse. C'est pour dire que c'est pas une petite chose que l'humanité s'autorise à réaliser, à agresser Dieu à l'instant même où il est en train de créer. C'est terrible dans l'histoire du clonage, c'est effrayant. C'est pas une petite chose, ça prend sept passages dans l'Apocalypse, à soi tout seul. Bon, le jour où, à cause de cela, il va y avoir le fameux avertissement, c'est-à-dire, oui, la paternité de Dieu va se manifester dans tous les corps humains par une miséricorde du Père qui ne veut pas que les hommes soient absorbés par la bête de la panthère à sept têtes. Et si vous mettez un gros couche de béton sur un volcan qui érupte sa lave, vous voyez, qui érupte son feu, l'amour de Dieu le Père, qui vient de l'intérieur, je mets une grosse couche de béton dessus, forcément, la lave, il faudra bien qu'elle sorte par un moyen ou par un autre, et donc ça va partir par un autre côté, là où on ne s'y attend pas. C'est exactement ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, 8 mars 2005, et là, qu'est-ce qui va se passer d'un seul coup? Ah, l'amour du Père va se manifester d'une autre manière, universellement, d'un seul coup. Alors, c'est les noces de l'agneau. Ça veut dire que les noces de l'agneau, c'est quoi? C'est que vous savez, les noces de l'agneau, à un moment donné, Babylone est là, elle va se replier sur elle-même dans une tiédeur qui va devenir glacée. Vous comprenez? Elle sera ouvertement diabolique. Bon. Et d'un autre côté, la cité va scinder en deux. Hein, donc, vous voyez, donc, et en même temps, ceux qui sont dans la brûlure d'Élohim, ceux qui sont dans l'esprit de prophétie, ceux qui n'aspirent et qui ne vivent que des noces de l'agneau de la fin, seront emportés à la rencontre du Seigneur à travers les airs. Deuxième verra les fois suivantes, justement, dans l'Apocalypse, comment la cité de l'humanité va scinder en deux et qu'il va y avoir cette béatitude d'enfance des noces de l'agneau, sponsale, glorieuse, mais en même temps terrestre. Ce n'est toujours pas la fin. C'est seulement le jugement de Babylone. Babylone, c'est-à-dire la cité de l'humanité athée, va se trouver jugée et ridiculisée parce que les chrétiens, dont elle s'est abreuvée de leur sang par leur martyr, les a ridiculisés, eh ben, sont emportés et ils vont vivre des noces. C'est pas la fin, mais un certain nombre seront emportés